Chapitre 3. En juillet, les foins ont commencé à mûrir grâce au beau temps. Fin août, les chapdelaines ont pu les couper pour les garder dans la grange. Pendant 5 jours, les garés, Esdras et le père Chapdelaine ont fauché. Dabé et Tit-Bé les ont suivis pas à pas avec les râteaux et ont mis tout de suite en tas le foin coupé. Ils ont travaillé de l'aube à la nuit sans perdre une seconde. Chez les Chapdelaine, les femmes ne participaient pas aux travaux des champs. Pendant le temps des foins, Maria et sa mère faisaient donc leurs tâches habituelles. Le nettoyage de la maison, la préparation des repas, la lessive, la traite des 3 vaches et le soin des poules, et une fois par semaine, la cuisson du pain qui se prolongeait souvent tard dans la nuit. Un soir, après avoir fait la première fournée de pain, comme il était déjà tard, Maria a dit à sa mère qu'elle pouvait aller dormir, qu'elle allait s'occuper de la deuxième fournée. Pendant que le pain cuisait, elle est allée s'asseoir à la porte de la maison pour profiter de la fraîcheur de la nuit. Et elle s'est mise à penser à François Paradis, à son retour au printemps, au plaisir de le revoir, aux mots qu'il lui dirait quand il se trouverait de nouveau seul, aux premiers gestes d'amour. Elle a d'abord prononcé 2 ou 3 fois son nom entier, cérémonieusement, comme les autres le prononçaient. François Paradis. François Paradis. Et tout à coup, intimement. François. C'est fait. Il est là, devant elle, avec sa haute taille et sa force, son visage brûlé par le soleil et ses yeux intrépides. Il est revenu, heureux de la revoir. Il n'y a pas encore de bleuets à cueillir, puisque c'est le printemps, mais il trouve une bonne raison pour s'en aller ensemble, dans le bois. Il marche à côté d'elle, sans la toucher, ni rien lui dire. Maintenant ils sont assis sur un arbre tombé, et voici qu'il parle. « Je vous ai manqué, Maria. » C'est cela qu'il demandera d'abord. Mais elle ne peut pas aller plus loin dans son rêve. Le temps lui semblera bien long avant le retour de François. L'été doit finir, puis viendra l'automne, et ensuite tout l'interminable hiver. Maria soupire. Mais son infinie patience revient bientôt, et elle commence à penser à elle-même et à ce que tout cela signifie pour elle. Quand elle pense à François Paradis, à son aspect, à sa présence, à ce qu'ils sont et seront l'un pour l'autre, elle et lui, quelque chose brûle en elle. « Le pain doit être cuit, » se dit-elle. Mais elle ne peut se résoudre à se lever. Elle a peur de rompre le rêve heureux qui ne fait que commencer. Début septembre, il faisait toujours beau temps. Mais un soir, le vent a tourné brusquement et au matin, la pluie tombait. Elle est tombée irrégulièrement pendant 1 semaine. Et quand elle s'est arrêtée et que le vent du nord-ouest a recommencé à souffler, l'automne était venu. L'automne, déjà. Un matin, Maria, en se levant, a vu la première neige descendre du ciel en innombrables flocons. Le sol était blanc. Tout semblait indiquer que l'automne était déjà fini. Mais Edwige Légaré a dit « Après la première neige, on a encore 1 mois avant l'hiver. J'ai toujours entendu les vieux dire ça. » Il avait raison, car 2 jours plus tard, une pluie a fait fondre la neige. Pourtant, c'était le signe qu'il fallait commencer les préparatifs pour se défendre contre les grands froids et la neige définitive. Les Chapdelaine ont donc fait des provisions de bois et de nourriture, lard, farine et autres denrées. En novembre, Esdras, Dabé et Edwige Légaré sont repartis pour les chantiers forestiers. La maison est alors à nouveau devenue le centre du monde et en vérité le seul endroit où on pouvait vivre. Le grand poêle de fonte était l'élément principal de la maison. À chaque instant, un membre de la famille allait sous l'escalier chercher 2 ou 3 bûches et les mettait dans le poêle. Quand la chaleur semblait diminuer, la mère Chapdelaine disait d'un ton inquiet « Ne laissez pas mourir le feu, les enfants !» Et Maria, Tit-Bé ou Télésphore jetaient un œil sur le poêle puis couraient chercher plus de bois. Le temps changeait régulièrement. Parfois, il faisait soleil et la neige brillait, mais l'air était glacé. D'autres jours, le temps était plus doux, mais la neige tombait abondamment. Puis le lendemain, le ciel était de nouveau clair, mais le vent du nord-ouest soufflait, terrible. « Il doit faire très froid dans le bois », s'est dit Maria. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait parlé tout haut. « Dans le bois, il fait moins froid qu'ici », a répondu son père. « Quand il y a beaucoup d'arbres, on ne sent pas le vent. Ne t'inquiète pas, Esdras et Dabé ne souffrent pas. Non ?» Ce n'était pas à Esdras ni à Dabé qu'elle avait d'abord pensé. Depuis la venue du froid, on avait souvent parlé des fêtes chez les Chapdelaine, et voici que les fêtes approchaient. « Je me demande si nous aurons de la visite pour le jour de l'an », a dit un soir la mère Chapdelaine. « Azalma Larouche n'est pas loin, mais elle ne voudra pas venir. Ceux de Saint-Prime ne feront pas non plus le voyage. Peut-être que Wilfried ou Ferdinand viendront de Saint-Gédéon, si la glace est belle sur le lac ?» Un soupir a montré qu'elle pensait à l'animation des villages, pendant les fêtes, aux repas de famille, aux visites inattendues des parents qui arrivent en traîneau, bien protégés par des couvertures et des fourrures. Maria pensait à autre chose. « Si les chemins sont aussi mauvais que l'an dernier, a-t-elle dit, on ne pourra pas aller à la messe de minuit. J'aurais bien aimé y aller cette année. » Par la petite fenêtre, elle regardait le ciel gris et s'attristait d'avance. Au milieu de décembre, la neige s'est mise à tomber avec abondance, fine et sèche comme une poudre. Et 3 jours avant Noël, le vent du nord-ouest s'est levé et a en quelque sorte effacé les chemins. Dès le lendemain de la tempête, le père Chapdelaine a attelé son cheval au grand traîneau et est parti, muni de pelles avec Tit'Bé, pour essayer de redessiner la route ou d'en tracer une autre. Les deux hommes sont revenus à midi, épuisés, blancs de neige, et on dit qu'on ne pourrait pas passer avant plusieurs jours. Il fallait se résigner. La veille de Noël, le temps était froid, mais calme. Les deux hommes sont à nouveau sortis de bonne heure pour tenter encore de tracer un chemin, mais en vain. Ensuite, tous se sont mis à réaliser leurs tâches habituelles. Les hommes sont allés s'occuper des animaux à l'étable, et Maria et sa mère ont nettoyé la maison et ont fait les préparatifs du souper. Ensuite, Maria s'est mise à tricoter car elle voulait terminer le pull qu'elle pensait offrir à son père le jour de l'an. Après le souper, les Chapdelaine ont prié ensemble, puis ont chanté des cantiques et des chansons traditionnelles. Tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Et maintenant, une autre chanson. Laquelle ? A dit le père. Et sans attendre de réponse, il a commencé. 3 gros navires sont arrivés, chargés d'avoine, chargés de blé. Nous irons sur l'eau, nous y promener, nous irons jouer dans l'île. Non, pas celle-là, a dit Maria. Clairefontaine. Ah, c'est beau ça.
À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Et on a continué ainsi, jusqu'à tard. Ensuite, on a déshabillé et couché la petite Alma Rose, qui s'était endormie sur les genoux de son père. Télesphore n'a pas tardé à la suivre. Bientôt, Tit'Bé, à son tour, s'est étiré, puis il a rempli le poêle de bois et est monté. Le père Chapdelaine a fait un dernier voyage à l'étable et est rentré en courant disant que le froid augmentait. En allant se coucher, il a dit à Maria, qui était maintenant seule dans la pièce, « Tu n'oublieras pas d'éteindre la lampe ?»« Non, son père. » Elle l'a éteinte tout de suite, préférant l'ombre, et est allée s'asseoir près de la fenêtre. « J'ai prié, s'est dit Maria, mais je n'ai pas encore demandé de faveur, pas avec des mots. » François Paradis. Naturellement, son souhait se rapportait à François Paradis. Qu'il n'ait pas de problème dans le bois. Qu'il revienne au printemps. Qu'il revienne au printemps. En pensant à ce retour, à lui, à son beau visage, brûlé par le soleil qui se penchera vers le sien, Maria oublie tout le reste et regarde longtemps sans les voir, le sol couvert de neige et la lisière proche des bois menaçants. Le jour de l'an, aucun visiteur n'est venu. Vers le soir, la mère Chapdelaine, un peu déçue, a caché sa mélancolie sous la forme d'une gaieté exagérée. « Personne n'est venu, a-t-elle dit, mais ce n'est pas une raison pour être triste. Nous allons faire de la tire. Les enfants ont poussé des cris de joie et ont suivi des yeux les préparatifs, avec un intérêt passionné. On a fait cuire un mélange de sirop d'érable et de cassonade. Quand la cuisson a été suffisamment avancée, Télesphore a rapporté du dehors un grand plat rempli de belles neiges blanches. Tout le monde s'est rassemblé autour de la table pendant que la mère Chapdelaine laissait tomber le sirop en ébullition goutte à goutte sur la neige où il se figeait et devenait des friandises appétissantes. La tire était faite. Les enfants en dégustaient les premiers morceaux quand on a frappé à la porte. « Eutrope Gagnon, » a dit le père. « J'étais sûr qu'il allait veiller avec nous ce soir. » C'était Eutrope Gagnon, en effet. Il est entré, a souhaité le bonsoir à tout le monde, a posé son bonnet sur la table. Maria le regardait, une rougeur aux joues. La coutume veut que le jour de l'an, les garçons embrassent les filles. Et Maria savait fort bien qu'Eutrope, malgré sa timidité, allait le faire. Elle restait immobile près de la table et attendait. Elle aurait aimé recevoir un baiser de quelqu'un d'autre. Pourtant, le jeune homme a pris la chaise qu'on lui offrait et s'est assis les yeux à terre. « Tu es la seule visite que nous avons eue aujourd'hui, » a dit le père Chapdelaine. « Mais j'imagine que tu n'as vu personne non plus. J'étais sûr que tu viendrais veiller. » « En effet, je voulais venir vous voir, mais j'ai appris des nouvelles que je voulais vous annoncer. » « Ah !» Il continuait à baisser les yeux. « À voir ton visage, je pense que ce ne sont pas de bonnes nouvelles. »« Ouais. » La mère Chapdelaine s'est levée et a demandé d'un ton angoissé. « C'est au sujet des garçons ?»« Non, Madame Chapdelaine. Esdras et Dabé vont bien. »« Les nouvelles concernent un garçon que vous connaissez bien. » Il a hésité un instant et a prononcé le nom à voix basse. « François Paradis. » Il a regardé un instant Maria, puis a de nouveau baissé les yeux. Mais elle n'a pas remarqué le coup d'œil chargé de sympathie qu'il lui avait adressé. Il y a eu un grand silence, puis Eutrope a continué. « Voilà ce qui s'est passé. Vous savez peut-être qu'il était contremaître dans un chantier en haut de la Tuque, sur la rivière Vermillon. Quand le milieu de décembre est venu, il a dit tout à coup au patron qu'il allait partir pour venir passer les fêtes au lac Saint-Jean, ici. Le patron ne voulait pas, naturellement. Quand les hommes se mettent à prendre des vacances de 10 à 15 jours en plein milieu de l'hiver, cela perturbe le chantier. Il ne voulait pas et il le lui a bien dit. Mais vous connaissez François. Quand il avait une chose en tête, impossible de le faire changer d'avis. Il a répondu qu'il voulait aller au Grand Lac pour les fêtes et qu'il irait. Alors le patron l'a laissé faire, par peur de le perdre, car c'était un excellent travailleur et qu'en plus il connaissait bien le bois. Eutrope parlait lentement, mais sans chercher ses mots. Il s'était sûrement préparé à l'avance. Maria, malgré son angoisse, a tout à coup pensé « François a voulu venir ici pour les fêtes, pour me voir. » Eutrope a poursuivi. On a dit à François qu'il ne trouverait pas de transport, mais il a répondu qu'il marcherait tout le chemin et qu'il arriverait au Grand Lac en suivant les rivières, la rivière Croche d'abord et puis la rivière Ouatchouan. « Ah, je connais, » a dit le père Chapdelaine. « Ça peut se faire. »« Oui, mais pas à cette saison, monsieur Chapdelaine. » Tout le monde là-bas a dit à François qu'il ne fallait pas faire ce voyage en plein hiver, au temps des fêtes, avec le froid qu'il faisait, et seul. Mais il est parti, et il s'est écarté. La tempête l'a surpris dans les bois et il s'est arrêté un jour. On sait ça grâce aux indigènes qui ont trouvé l'abri en branches de sapin qu'il s'était fait et ses pistes. Il est reparti parce qu'il n'avait presque pas de provisions et qu'il voulait arriver au plus vite, je pense. Mais le temps était encore très mauvais, la neige tombait, le vent soufflait fort et, toujours d'après les indigènes, ses pistes s'éloignaient de la rivière Croche et s'en allaient vers le nord. Et cela a provoqué son malheur. C'était un homme bon, fort et vaillant, mais sans méchanceté. Il a alors levé les yeux vers Maria, et à répéter avec force « C'était un homme bon ». Maria a compris que c'était pour elle qu'il disait cela, car il avait deviné son chagrin. Mais elle ne pouvait pas parler. Dès que le dénouement du récit tragique était devenu clair pour elle, une main avait pénétré dans sa poitrine et lui serrait durement le cœur. D'autres mots ont été échangés, mais elle n'entendait plus rien. Eutrope est ensuite parti. Il était l'heure de se coucher. Laura Chapdelaine a posé doucement sa main sur l'épaule de sa fille et lui a dit de venir. Mais Maria a préféré rester un moment seule. « Comme il a dû souffrir là-bas dans la neige », s'est-elle dit. Elle a très froid et elle s'approche du poêle, mais elle ne sent pas la chaleur qui entre en elle. Elle ne cesse de frissonner en pensant au pays glacé qui l'entoure, au bois profond, à François Paradis qu'elle ne peut encore imaginer insensible et qui doit avoir si froid dans son lit de neige.